invités se suivent et ne se ressemblent pas. Bonsoir à toutes et à tous. Voici La Vie de Lyon, votre magazine d'information locale sur votre radio préférée, c'est Radion. Ce soir, je suis heureux d'accueillir un homme des planches, un passionné de beaux textes, comédien et metteur en scène, Aldo Magno. Bonsoir.
Bonsoir Yannick et bonsoir Radion.
Alors Aldo, je t'accueille parce que tu es étonnamment en ce moment chef de troupe sans troupe de théâtre. Situation originale.
Oui, chef de troupe, oui, je trouve que chef de troupe, on dit directeur de troupe. Ouais, je me dis bon, peu importe le qualificatif, le principal c'est d'avoir une troupe pour avoir donc un espace de création, un espace de liberté. Et monter des spectacles seul, à deux, à trois, à quatre, à cinq, à six, c'est variable.
Voilà. Alors, on parlera des projets au cours de l'émission, mais d'abord, je vais te demander, Aldo Magno, de nous raconter un peu ton enfance. En fait, tu es né dans le département du Doubs, dans une sous-préfecture, même tu es né à Pontarlier en 1959.
Oui, en 1959, le 7 mai, plus exactement. Voilà, donc je suis né donc en Franche-Comté. Maintenant donc c'est réuni, hein, football de Franche-Comté, on est dans la même région. En fait oui, je suis né donc à Pontarlier et ensuite j'ai un peu bougé. Mes parents se sont déplacés un peu plus bas du côté de Montbéliard. Voilà.
Alors tu es le septième enfant d'une grande famille.
Oui, je suis le numéro 7 de 8 enfants. Voilà. J'ai 4 frères et 3 sœurs.
Alors des parents italiens ?
Oui, mes parents sont italiens. Voilà.
Ça compte ? Ça a compté ? Ça a été problématique à un moment dans ta jeunesse, dans ton adolescence, de savoir si tu étais français, italien ?
Aujourd'hui, je me dis que c'est bien, c'est un plus, parce que ça fait un peu une double culture, bien que c'est une culture un peu judéo-chrétienne, j'ai une culture aussi donc européenne, donc il y a peu de choses qui changent. Quoique, je me dis que voilà, il y a peut-être un peu plus de folie dans cette culture italienne qu'il y a plus de raisons dans la culture française, quoi. Donc je suis entre ces deux pôles en me disant ben voilà, j'ai cette folie un peu plus du sud et j'ai cette raison un peu plus du nord qu'est la France par rapport à l'Italie.
Tu as grandi donc dans le pays Montbéliard, Sochaux, c'est plutôt les HLM, les cités dortoirs, c'est un souvenir un peu lourd d'une jeunesse un peu, enfin disons, dans un environnement un peu morose, architecturalement parlant.
Ah oui, ça c'est sûr que des barres de HLM, ça marque. Quand on y vit, quand on est jeune, on ne s'en rend pas bien compte, avec le recul. Et les années passant, quand on grandit, donc, hein, quand on arrive dans ces cités dortoirs, où il n'y a que des ouvriers, en fin de compte, hein, des gens qui vont travailler à l'usine, parce qu'il y a Peugeot Sochaux qui est là, qui prend la main-d'œuvre rurale et ensuite la main-d'œuvre étrangère. Et je me rappelle qu'on s'est retrouvé dans ce bloc, parce qu'en fin de compte, on appelait donc cet immeuble un bloc, bloc 15, bloc 12, bloc 2. Vous voyez, c'était. Et il y avait peut-être des histoires entre blocs, des fois, mais on se retrouvait là, tous logés à la même enseigne, qu'on soit algérien, hongrois, français, italien, portugais, espagnol, voilà, tous ces gens déracinés qui se retrouvaient là pour un même objectif, gagner leur vie chez Peugeot.
Quelle enfance as-tu eue entre ces blocs, entre ces barres HLM, des copines, des copains, qu'est-ce qu'on faisait, comment s'occupait-on?
On avait la chance d'être donc, mis à part ces blocs et ces barres de HLM, il y avait, tout de suite, on avait accès à la nature. Je me rappelle que d'un côté, il y avait tous ces blocs, toutes ces barres de HLM, et de l'autre côté, il y avait des champs à perte de vue, des vergers, où on allait marauder, bien sûr. Hein. Et après, là, cette forêt, cette immense forêt qui allait jusqu'au pays de Belfort, quoi, territoire de Belfort. Donc, j'ai passé mon enfance dans les champs, dans les vergers et dans ces forêts où on allait régulièrement. Moi, je dis, on allait pratiquement pas tous les jours, mais j'ai passé ma vie dans la nature, en fait. Donc il y avait un côté HLM et l'autre côté c'était open field, des champs et des forêts.
Tu passes certes une grande partie de ton enfance dans la nature, tu iras tout de même à l'école, hein, bien sûr.
Ouais, un petit peu, hein, comme tout le monde. Hein. Voilà, un petit peu comme tout le monde. J'avais la chance, en fait, les écoles n'étaient pas très loin, l'école primaire était, bon, un petit kilomètre. Sinon, après le collège, il était vraiment à 5 minutes de chez moi. Voilà. Donc, évidemment, on a construit les collèges en rasant les vergers et en occupant, donc, en remplaçant ces grands prés par deux collèges, le collège Albert Camus et le collège Anatole France.
Alors, quelle scolarité as-tu mené, Aldo, et quel genre d'élève étais-tu?
J'avais une scolarité moyenne basse, je dirais. Voilà, j'étais un peu un drôle. Je plaisantais souvent. Enfin voilà, j'ai essayé d'amener un peu de vie, puis un peu de joie et de bonne humeur dans les classes, dans les cours, etc. Bon, je me suis fait un peu remettre un peu à ma place, évidemment. Voilà, mais j'étais un peu un animateur, je dirais. Voilà.
Aldo, si tu le veux bien, on marque un premier temps de pause musicale dans cette émission La Vie de Lyon et puis on te retrouve juste après. C'est donc Aldo Magno qui nous accompagne aujourd'hui dans La Vie de Lyon. C'est un comédien et un metteur en scène qui est aujourd'hui dans La Vie de Lyon avec nous, c'est Aldo Magno, né en 1959 et qui habite le petit village de Fresnes, hein, dans le Tonnerrois, c'est bien cela Aldo?
Absolument.
On est bien à Fresnes, hein?
Ben oui.
Tout petit village de quoi? 150, 200 habitants?
Il y a 90
ans. Ah
oui,
c'est... Voilà. Ah, oui.
90. Voilà. Ben, et comme tous les villages en milieu rural, hein, et même les villes, hein, les villes moyennes, les petites villes, ceux des peuples, hein.
Alors, je parle de ce tout petit village parce que, entre la cité HLM que tu as pu connaître à Montbéliard et le petit village de Fresnes, 80 habitants ici dans le Tonnerrois, le contraste est immense. Tu es un homme de la campagne, un homme de la terre, de la ruralité?
Jusqu'à mon adolescence, j'étais un enfant de la campagne, oui. Parce que même si on vivait donc dans les cités dortoirs, j'avais accès à la nature et on y allait sans arrêt, quoi. Et à partir de 14-15 ans, j'étais attiré un peu plus par la ville, d'aller au cinéma, d'aller dans les centres culturels, des choses comme ça. Voilà, mais sinon, mon enfance, c'est la nature, c'est le rapport à la verdure, à la nature, enfin. Voilà.
Ton adolescence, 14, 15, 16 ans, tu as le désir de t'émanciper, de quitter ce que tu appelles le monde HLMien, le monde des HLM. Tu refusais un peu cette condition d'enfant, de parents modestes. Tu aspirais à quelque chose de bien particulier?
En fait, c'était surtout l'impression d'être un peu prisonnier par ces blocs de béton. Voilà, puis d'avoir toujours cette espèce d'image. Du goudron ou du béton, quoi. Donc, j'avais envie d'espace, j'avais envie de connaître, j'étais curieux de découvrir le monde. Et donc, je me disais, il faut que je sorte de cette cité, il faut que je sorte de cet endroit, il faut que j'aille ailleurs. Ailleurs est grand, ailleurs doit être pas mieux, mais autrement, voire plus beau, voilà, différent.
Tu ne voulais pas en fait te résigner à devenir ouvrier. Pour toi, il y avait une sorte d'hérédité un peu sociale contre laquelle tu voulais lutter.
Ben oui, je me disais, bon, il n'y a pas vraiment de perspective, hein, quand on est donc dans une cité HLMienne, et puis donc quand il n'y a qu'une seule usine qui emploie pratiquement plus de 45 000 personnes, parce qu'il y avait quand même 45 000 personnes, hein, qui travaillaient à un certain moment. Aujourd'hui, ça a complètement dégraissé, c'est plus le cas. Mais là, je me dis que voilà, il fallait quand même que je sorte de ça pour découvrir autre chose.
Mais néanmoins, il y avait l'ascenseur social de l'école. Étant né quand même en 59, Aldo, tu fais partie de cette génération qui a bénéficié de l'ascenseur social de l'école de la République. Non, tu n'y croyais pas, c'était...
Bah, j'étais pas dans ces questions de rapports sociaux, aux rapports de classe à cette époque-là. Je voulais simplement, j'aspirais à découvrir autre chose, à peut-être à m'élever, à aller ailleurs, mais pas subir cette condition ouvrière. Et j'y ai goûté, hein, j'y ai travaillé. Hein. Je sais ce que c'est que l'usine, et on y apprend plein de choses. On y apprend le travail, on y apprend à le rapport avec les autres, on y apprend moult choses. Moi, je n'ai aucun regret par rapport à ça. Je me dis que c'était une belle expérience de vie, mais de là à finir mes jours dans un lieu, dans une usine, enfermé, non.
Tu as quitté l'école à 17 ans, tu as passé un CAP en mécanique générale.
Oui, c'est ça. En fin de compte, j'ai choisi, quand on est en troisième, il faut choisir une activité, une orientation, et j'avais dit, tiens, pourquoi pas. Bah, mécanique générale, parce que dans ma tête, pour moi, mécanique générale, c'était donc la mécanique auto, etc., etc. Et mal m'en a pris, parce qu'en fait, j'ai découvert que la mécanique générale, c'était tout autre chose, et que c'était travailler sur des machines-outils, qui étaient donc un tour, voilà, une fraiseuse, etc., etc. Voilà.
À l'âge de 17 ans, tu es donc à l'usine avec néanmoins l'envie d'être globe-trotteur. Dans ta tête, il y a des envies d'évasion, des envies, j'allais dire, comme des envies rimbaldiennes d'hommes à semelle de vent.
Voilà, j'avais pas vraiment le choix. Je me disais, pour aller ailleurs, il faut quand même que j'ai un peu d'argent. Donc la solution pour moi, ça a été donc de sortir de mes études, en fait, quitter mes études et me dire, va travailler, au moins tu auras un salaire, et avec ce salaire, tu pourras prétendre avoir un petit pécule, et avec ce petit pécule, te permettre de voyager, de partir dans le monde. Je n'avais pas une idée précise de où j'irais, mais je me dis, bon, ben voilà, tu as la force, tu as le courage, tu as le culot. Et je vivrai où je serai, quoi, mais ailleurs.
Avant d'enregistrer cette émission, on a discuté ensemble et je cite un de tes propos. L'usine m'a amené à rencontrer les hommes dans toute leur splendeur.
Oui, parce que on y voit, c'est le reflet du monde, l'usine. Il y a ceux qui sont vraiment très gentils, il y a les gens avec qui on partage de belles choses, il y a ceux qui vous ignorent. Il y a ceux qui vous combattent, il y a ceux qui vous trahissent, il y a ceux qui vous dirigent, qui vous commandent, et il y a ceux qui vous surveillent. Voilà, l'usine, c'est le reflet du monde.
Et c'est un univers qui a été très formateur pour toi en tant que citoyen, en tant même que futur artiste?
Quand on est à l'usine, on a un rapport aussi avec la hiérarchie, on a un rapport avec l'autorité, hein, avec donc le patronat. Et donc on rencontre des syndicats, on se fait une idée de la politique, on se fait une idée un peu des syndicats, quel est ce syndicat, qu'est-ce que vaut la CGT, qu'est-ce que vaut la CFDT, quelle est leur différence, voilà. Donc je crois que j'ai appris aussi ce que c'est que devenir militant, qu'être citoyen aussi, être au courant. Je me dis que ce sont grâce aussi à ces syndicats que les choses un peu ont pu changer, que les choses ont pu s'améliorer, que les conditions de travail, les conditions de vie se sont améliorées. Et je crois qu'il ne faut pas l'oublier, et j'ai gardé ça en moi.
Aldo, tu as fêté tes 20 ans dans des conditions très particulières.
Oui, et je suis rentré donc au mois de juin 76, chez Peugeot, donc à Valentigny-Mandeur. On y faisait donc des cycles, mais pas que. On faisait aussi des tubes qui servaient pour des tuyaux d'échappement, enfin voilà. Et je travaillais justement dans cet atelier où on faisait donc les tubes. Voilà, il y avait donc, je me dis que, voilà, on faisait des tubes pour les cadres de vélo, on faisait des tubes pour les pots d'échappement, il y avait toutes sortes de tubes, etc. Donc pendant 2 ans et demi, j'ai été un peu un entubé, voilà. C'est ce que je me disais, finalement j'étais un entubé, on travaillait au tube, voilà. Donc je plaisantais comme ça, mais je me dis oui, quelque part, on est toujours un peu voilà. Donc oui, donc travailler dans cet atelier pour moi c'était y aller, et j'y allais de plus en plus en marche arrière. Je me disais, je ne peux pas rester ici. Si rester ici, c'est aussi m'enraciner, puis quand j'aurais pris racine, comment m'en aller? Donc j'ai tenu 2 ans et demi, et je me disais, pars, ne t'enracine pas. Et un jour, en 1979, le 7 mai 1979, on me licencie. Voilà. Je suis licencié pour le jour de mon anniversaire. Donc je me dis, bon, c'est pas toujours agréable d'être licencié d'une usine le jour de son anniversaire, mais aujourd'hui je dis bravo et je leur dis merci.
Parce que ça t'a ouvert la porte vers autre chose, et on va en parler juste après la nouvelle pause musicale que nous vous proposons. Nous sommes aujourd'hui avec Aldo Magno, et c'est La Vie de Lyon sur votre radio locale.
Des larmes de sel, voyage au long cours, l'amour et la mer, l'écume de nos jours, nos années-lumière, parties en poussière, des allers-retours. Thank you.
C'est le comédien et metteur en scène Aldo Magno qui nous accompagne aujourd'hui dans La Vie de Lyon. Alors Aldo, on a bien compris, des débuts dans le monde de l'industrie, le monde de l'usine. Alors il y a la découverte de Paris, dans des métiers de la restauration, tu seras pizzaiolo, très débrouillard tout de même. Très débrouillard, travailleur, courageux et s'adaptant très facilement. Un Aldo Magno caméléon, et je dirais presque vraiment acteur de sa vie.
Oui, acteur de sa vie, je crois qu'on l'a toujours tous un peu...
Ça dépend, il y a des gens qui subissent parfois. Toi, tu as pris les choses en main.
Bah, je me dis...
Et tu dis, pardonne-moi Aldo, quelque chose qui est magnifique, tu m'avais dit, quoi que je fasse, j'y mets de l'amour, j'y mets mon âme et mon cœur.
Bah, je crois que c'est important d'être entier dans son fait, parce que sinon, on y va en marche arrière, sinon on avale du poison, quoi. Alors je me dis, bon, tant qu'à faire, même si c'est désagréable, on essaie d'y mettre le meilleur de nous-mêmes, c'est déjà plus léger à vivre.
Alors tu as vécu et travaillé à Paris, tu as bénéficié à une époque de l'appartement de ta sœur, alors tu te promènes à Saint-Germain-des-Prés, tu vas beaucoup au cinéma, tu y vas même tous les jours, jusqu'au moment où tu es interpellé par une affichette qui propose des cours de théâtre. Et là, c'est le grand bouleversement de ta vie, c'est le début d'un tournant.
Alors, bouleversement, non. Pour moi, c'est quelque chose de nouveau, tout beau, comme on dit. Hein. Et oui, donc je travaillais donc... dans la restauration. Alors, j'ai fait cuisinier, j'ai fait aussi serveur, j'ai fait pizzaiolo.
Barman.
Barman, voilà, des choses comme ça. Et ça me laissait du temps, dans les coupures, hein, de 15 à 19 heures, d'aller au ciné. En plus, on a la chance à Paris d'avoir plein de cinémas dans les quartiers. Et voilà. Donc, c'était pour moi, j'ai bouffé du cinéma, en veux-tu, en voilà. On avait le choix en plus de dire, bah, là, on prend le métro, on va voir tel film, etc., etc. Donc j'ai bouffé beaucoup de films. Et un jour, je tombe sur une affiche de théâtre qui proposait donc des cours. Ça s'appelait le joueur regardé. Direction, donc dirigée par Daniel et Marie-Thérèse Postal. Donc deux anciens comédiens qui, en fin de parcours, proposaient donc une école de théâtre. Et donc là... L'affiche était tellement belle, je me rappelle, c'était une affiche toute blanche, avec un comédien masqué, qui était un peu noir et rouge. Et là, c'était marqué « Le joueur regardait ». Donc c'était tout un mystère, et vraiment j'étais frappé, donc j'ai appelé, et j'ai rencontré donc mon prof de théâtre, à Saint-Germain-des-Prés, dans un studio de psychanalyste qu'on lui avait prêté. Alors c'est toujours marrant de passer une audition dans un studio de psychanalyste.
Et cette audition, tu la passes en interprétant... un texte de Boris Vian, quelqu'un dont tu écoutais beaucoup les chansons dans ta jeunesse.
J'écoutais pas trop les chansons de Boris Vian, parce que j'ai découvert les chansons de Boris Vian plus tard. Je connaissais la littérature, les textes de Boris Vian, sa poésie, mais je connaissais pas ses chansons encore. Voilà, j'ai découvert Boris Vian plus par ses écrits et ensuite par sa musique, voilà. Mais parce que j'en profitais justement, quand je travaillais à l'usine, j'avais toujours un bouquin sur moi. Quand j'avais un quart d'heure, une demi-heure de libre, j'allais dehors en été, des fois, comme il faisait du soleil, donc j'allais lire Boris Vian, voilà, et je retournais à mon poste de travail. Donc ça m'a toujours accompagné. Et donc, oui, c'est vrai, donc à cette audition, donc la personne qui deviendra mon professeur de théâtre me dit « Amenez un texte que vous avez appris ou que vous lirez, enfin, amenez quelque chose, que je me fasse une idée de qui vous êtes. » Et donc, je choisis un texte de Boris Vian qui s'appelle « Je ne voudrais pas crever ». Voilà. Et donc là, il m'écoute, je dis le texte que j'avais appris. Et là, il me regarde et me dit « Bien, ben, il y a du travail », qui me dit. Voilà. Donc, pour moi... Je me suis dit, bon, il y a du travail, oui, de toute façon, la vie c'est toujours un travail, quoi qu'on fasse. Donc je me suis donc accroché et j'ai suivi des cours avec ce professeur.
Des cours que tu t'offrais et que tu payais en continuant à faire des petits boulots à côté.
Ben, au départ, j'étais encore dans la restauration et j'avais pris mon jour de congé, le jour où il y avait donc l'atelier théâtre ouvert. Voilà, puis après, donc au bout d'un an, un an et demi, deux ans, je me disais, mais la restauration, c'est bien, mais je crois que j'ai décidé d'arrêter la restauration pour me consacrer donc à mes cours de théâtre et puis aller plus loin dans ce parcours de comédien, etc.
Alors, à l'âge de 28 ans, on est en 1987, tu participes au Festival d'Avignon, c'est ton premier Festival d'Avignon, alors c'est le off, avec une pièce de Dario Fo qui a pour titre « Faut pas payer ».
Voilà. Oui, c'est Dario Fo, c'est un auteur que j'adore, encore un Italien aussi, avec sa verve, avec sa folie, avec ses propos, avec c'est une Molière, en fait, moderne, des temps modernes. Hein. Celui qui dénonce, celui qui regarde ce qui ne va pas, celui qui prend la petite histoire et qui vous la ramène aussi à l'universel. Je me dis, voilà, il y a des auteurs comme ça qui sont incontournables. Et Dario Fo, pour moi, c'est quelqu'un de très important. Voilà. Et on découvre avec cette compagnie qui a été créée par d'anciens élèves, on découvre ce texte de Dario Fo. Et on décide de faire Avignon avec.
Alors, impression, ce Avignon
Impression d'être sur les terres de Jean Villard, enfin voilà quoi, avec cette première découverte, ce palais des papes, avec cette effervescence théâtrale, cette effervescence de passionnés qu'il y a dans la rue, qu'il y a dans les théâtres, voilà, ces affiches, ces couleurs. C'est un moment de fête, c'est un moment d'expression, et les souvenirs sont géniaux. Je me dis, voilà, c'est une expérience à vivre et à revivre, voilà. Quand on en a les moyens, évidemment, parce que faire Avignon, c'est aussi, ça veut dire avoir de l'argent, avoir des moyens.
Restez avec nous, c'est La Vie de Lyon avec Aldo Maillon. On se retrouve dans une poignée de minutes sur votre radio locale.
Don't you shut your eyes and hide your heart behind the shadow. 'Cause you can count on me as long as I can breathe. You should know I'll carry you through the night, through the storm. Give you love, only love in return. I can jump over.
Radion. Aldo Magno nous accompagne aujourd'hui dans la vie de Lyon. Alors, on s'est quitté avec effectivement ce Festival d'Avignon en 87, Aldo, ou avec la compagnie, le théâtre de l'Équinoxe, donc tu joues avec tes camarades une pièce de Dario Fo intitulée Faut pas payer. Vous êtes remarqué par un autre homme de théâtre qui vous invite, alors cette fois-ci c'est 89, il vous invite à une résidence théâtrale à Châtillon-sur-Seine.
Oui, donc un ami comédien qui est metteur en scène aussi, qui s'occupe aussi de la compagnie des gens, donc Jacques Senlet, nous voit jouer une petite pièce de Bertolt Brecht qui s'appelait Le mendiant ou le chien mort en Avignon, en off du off. C'est-à-dire qu'on ne jouait pas dans une salle, on jouait dans la rue, sur des places. On a joué sur les places devant des restaurants, au Rocher des Dons, c'est le lieu le plus haut d'Avignon. Et donc, il nous demande si on ne veut pas descendre en Bourgogne, créer des ateliers théâtre pour former de jeunes comédiens et monter un spectacle sur le bicentenaire de la Révolution française. Voilà, à cette époque-là, Jacques Lang met des moyens et donne des moyens aux compagnies pour monter des spectacles. Et donc, nous atterrissons donc à Châtillon-sur-Seine. Et là donc, à Châtillon-sur-Seine, on y fait des ateliers et on crée ce spectacle en 1989 sur la grande peur, donc la grande peur sur le bicentenaire de la Révolution française. Peu de temps après, donc, on voit un article dans le journal où Michael Lonsdale cherche des comédiens pour monter un spectacle sur la vie de Saint-Bernard. Donc on répond à cette invitation, on rencontre Michael Lonsdale. Et donc, de cette rencontre va naître une amitié. Donc, mon ami, comédien, va jouer Saint-Bernard, donc il s'appelle Sylvain Marmora, jouera Saint-Bernard, et moi, je deviendrai donc l'assistant metteur en scène de Michael Lonsdale.
Impressionnant tout de même.
Oui, au départ, c'est impressionnant. Puis après, très vite, on se trouve devant notre alter ego, en fait, devant un homme simple, gentil, aimable. Quelqu'un de doux, un lac, car il n'a ni de sursaut, ni de... Non, c'est quelqu'un qui est égal à lui-même, voilà, qui coule, comme la vie.
Tu t'es installé, pardon, en 1989 en Bourgogne, enfin tu découvres la Bourgogne en 89, et tu décides de t'y implanter en achetant, en acquérant un bien immobilier qui n'est pas n'importe quoi.
Oui, donc... Donc on était installé donc à Châtillon-sur-Seine, la mairie nous avait donc autorisé une résidence. Et un jour, donc en voulant, lors d'un déplacement, en faisant donc Châtillon-sur-Seine Tonnerre, sur la route, je vois au loin une tour en pierre, hein, voilà, une vieille tour, et je me dis, tiens, il y a peut-être un château là, je ne connais pas. Donc j'en parle à mon ami qui me dit, ben non, il n'y a pas de château là. Il y a des fermes, des choses comme ça. Et donc, plus tard, je repasse sur cette même route et je décide d'aller voir cette tour de plus près. Et là, je m'aperçois que donc, ce n'est pas une tour ni un château, c'est une grande ferme avec une cour intérieure, avec des bâtiments en forme de U, voilà, avec une tour d'habitation et de l'autre côté, un pigeonnier. Donc, avec mon ami, on décide d'acheter ce bien pour en créer un lieu culturel en milieu rural. Voilà, donc c'est la Grande Vèvre, qui est juste à la frontière entre Lyon et la Côte d'Or.
Dans le canton de Cruzy-le-Châtel.
Voilà, c'est ça. Donc, on est dans le canton de Cruzy-le-Châtel, donc sur le village de Gigny, mais elle est à 3 km du village. Donc, elle est perdue dans les champs et dans les forêts. Un lieu dit. C'est une ferme templière. Ils avaient besoin d'eau, ils avaient besoin de bois, ils avaient besoin de terre, et voilà. Donc, ce lieu, qui était un lieu destiné au culte, devient un lieu... entre guillemets, culturel. Donc il y a eu trois époques dans ce lieu. C'était un lieu de culte et de culture. Ensuite, ça devient plus qu'un lieu de culture. Puis après, c'est un lieu culturel. En fait, on est resté dans cette idée de semer des graines. Après, je ne sais pas quelle sera la récolte, mais hein, c'est toujours comme ça. Il y a des êtres comme ça qui sèment des graines. Puis après, ben, prend qui veut, prendra pas, je ne sais pas.
C'est la vie de Lyon avec Aldo Magno. On reparle un petit peu de ce projet qui était de créer quand même un lieu d'expression au milieu rural. C'était ça l'objectif.
Ben oui, et on l'a créé. Il a existé pendant de 1992 en 2009. Ce lieu donc a accueilli des compagnies, des expos. On a fait des créations. On y a fait des chantiers de restauration aussi. Alors, c'était bien, quelque part, parce qu'on ne s'occupait pas simplement de faire de choses visuelles. Il y avait aussi un travail humain, un peu comme on pu avoir les créateurs de ce lieu-là, ces moines qui avaient un côté de spiritualité, dans la spiritualité, et un côté, dans leurs mains, ils étaient aussi des travailleurs aussi. Et j'aime ce rapport à la vie, où on travaille de ses mains, mais pas que. Il y a aussi l'esprit, il y a le spirituel, il y a tout ça. Et je pense qu'on est des êtres multiples, et l'expression doit être dans tous ces multiples.
En tout cas, il y en a qui travaillent de leurs mains, il y en a qui travaillent du chapeau. Nous, à Radio, on travaille du micro. C'est La Vie de Lyon avec Aldo Magnon. On se retrouve juste après la pause musicale. De la vie de Lyon avec notre invité Aldo Magno, comédien et metteur en scène. Aldo, je t'ai rencontré il y a quelques années, c'était dans le cadre du Salon du Livre de Tonnerre, enfin même c'est une grande semaine culturelle qui s'appelle Écrit et dit, c'est à Tonnerre chaque année, et c'était, je t'ai rencontré à ce moment-là autour d'un magnifique spectacle qui commémorait la vie et l'œuvre de Boris Vian. On revient à lui, point de départ un peu de ta carrière d'homme de théâtre.
Oui, je pense que c'est lui qui m'a un peu... Boris Vian a été pour moi une porte à tout un univers qui m'a amené à la littérature. Mais il n'y a pas que lui. Hein. Mais je crois que ça a été pour moi un déclenchement. Et quand j'ai connu, à travers ses chansons, à travers ses textes, à travers son univers, la pataphysique, etc., de Boris Vian, je me suis dit, bon, un jour, je ferai un spectacle sur Boris Vian. Et l'occasion a été donnée en 2008. Donc il y avait... Il y avait donc plein d'événements nationaux autour de Boris Vian, et on a décidé, avec, dans le cadre du festival Écrit et Dit, et avec une autre association du Tournerrois, de monter un spectacle sur Boris Vian. Voilà. Et donc là, le spectacle s'appelait Tonnerre de Vian. Il y avait de la musique, il y avait de la danse, il y avait du chant, il y avait du théâtre, enfin voilà, il y avait aussi des arts plastiques. Il y avait un peu un univers, magique, comme pouvait nous le donner Boris Vian.
C'était en tout cas un formidable spectacle qui avait été donné à la salle polyvalente de Tonnerre.
Oui,
formidable.
On a fait plusieurs représentations. Donc, la première était donc à la salle polyvalente de Tonnerre. Ensuite, on est allé jouer à la Grande Vèvre, justement. Hein.
Alors, pas de regrets par rapport à cette expérience extraordinaire de la Grande Vèvre, donc qui s'est arrêtée par la force des choses en 2009.
Oui, il y a des fois les belles choses, comme dirait l'autre, les belles choses ne durent pas, et les mauvaises non plus d'ailleurs. Hein. Voilà, heureusement. Je crois qu'on est toujours pris entre ce qui marche, ce qui ne marche pas, entre la pluie, le beau temps. Ça se résume en ça, la vie. C'est toujours être entre les deux.
Pour toi, Aldo, qui aime le sens du sacré, tu as été un comédien bâtisseur, puisque tu étais aussi artisan dans cette grande veuve de transformer la grange en salle de spectacle. On fait de l'électricité, de la plomberie, c'est extraordinaire.
Oui, c'est ça. Pendant 20 ans, j'ai été comédien bâtisseur. Oui. Mais c'est pas facile, parce que quand on est en train de construire de ses mains un lieu, ben, il faut aussi qu'on retourne aussi sur les planches, il faut aussi qu'on retrouve nos partenaires comédiens, il faut qu'on se remette aussi là-dedans. Donc c'était toujours, quand j'étais trop dans les mains, je me disais, mais retourne dans ta tête, et quand j'étais trop dans ma tête, je me disais, non, mais retourne dans les mains. Donc on est toujours pris entre le faire, la matière, et le spirituel, quoi, on est toujours pris entre les deux.
Alors, après, je dirais, la fin du beau rêve de la Grande Vèvre, tu crées une compagnie qui s'appelle En Compagnie des Anges, mais pas que, qui est implantée et accueillie par la ville et la municipalité de Saint-Florentin.
C'est ça. Donc, en quittant donc la Grande Vèvre, je cherche donc une ville d'accueil, et Saint-Florentin me propose de venir donc dans la cité. Donc je m'installe là-bas, je crée un atelier où je fais des créations depuis 6 ans maintenant. Je suis donc à Saint-Florentin, où on fait des créations là-bas sur place, mais des créations qui partent aussi ailleurs.
Et pourquoi, qu'est-ce que les anges viennent faire d'un seul coup aux côtés d'Aldo Magno?
C'est pas facile de trouver un nom de compagnie. Il y en a tellement. Et je me suis dit, tiens, après une expérience, après deux expériences, après l'expérience de vie, je me suis dit, tiens, pourquoi pas En Compagnie des Anges, mais pas que. Parce que je me dis, bon, ça résume aussi la vie. On est toujours entouré de gens bienveillants, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un rapport aussi, des fois de force, des fois des contradictions, des fois des rapports qu'on n'aimerait pas, mais qui sont bien existants.
Juste après la pause musicale qu'on va proposer dans un petit instant, on parlera de tes projets. Tu m'as dit que tu ne mourrais pas sur les planches.
Oui, je dis... C'est
déjà vu, déjà vécu,
ouais, dans le passé, dis, bon, pas original. Le mythe, j'ai pas d'appartement, j'ai rien, je suis nu, etc. Ouais, c'est un peu dépassé. Puis je me dis, bon, voilà, c'est pareil, je suis artiste, mais pas que. Hein, je suis d'abord aussi un homme, tout simplement. Hein. Je dis, parce que sinon, on est toujours dans l'autre nuage, mais... Il y a aussi la réalité, il y a aussi la vie, puis il y a aussi... on est des êtres multiples, donc je suis, oui, j'ai ma part de passion. Puis après, il y a la vie de tous les jours, hein, il faut payer ses impôts, il faut payer ses taxes, il faut manger, il faut boire, comme tout le monde en fait.
On se retrouve pour conclure avec notre invité Aldo Magno, juste après la pause musicale. On parle aussi de ses projets. C'est La Vie de Lyon, dernière séquence, juste après. Et bien, peut-être le tube qu'on vous propose là sur votre radio locale.
Radio Lyon.
Ça ne tient pas debout sous mes pieds, le ciel.
marchait dehors comme par hasard, cachant l'effort dans le griffoir et une creepy song en étendard qui fait
je fais tout mon make-up au mercurochrome.
Dernière séquence de La Vie de Lyon avec notre invité Aldo Magno, comédien, metteur en scène. Aldo, quels sont les projets? Les projets, c'est bientôt, c'est ce printemps, c'est fin mars prochain à Dijon.
C'est ça. Donc, à partir de mars, donc le 28, 29 et 30 mars, je participe au festival ItaliArt à Dijon, donc, qui est une association qui crée donc, des événements à connotation italienne. Oui, il y a de la musique, de la danse, du théâtre, de la gastronomie. En fait, c'est un concentré d'Italie qui s'installe dans la ville de Dijon. Voilà. Où les artistes sont accueillis chez l'habitant. Voilà, on y parle de la Bourgogne, mais on y parle aussi de la création italienne, de ses auteurs. Donc, il y a plein d'Italiens qui sont invités. Voilà.
Et toi, tu seras le porte-parole théâtral d'un grand écrivain napolitain ?
Théâtral, je vais dire des textes. Je souligne bien le fait de dire des textes. Parce que moi, c'est pas de la lecture, c'est plutôt dire
des textes. Un diseur.
Un diseur, c'est aussi donner une couleur, une interprétation. Ce n'est pas simplement lire un texte, c'est aussi dire, comme un comédien interpréterait un rôle. Là, dans la lecture, il s'agit de donner aussi une couleur, donner une direction, faire un choix. Voilà, c'est très important ça. Lorsqu'on dit quelque chose, on fait toujours un choix. Donc je me dis, c'est dire et non lire. Mais bon. Après, chacun peut donner sa définition de la lecture. La mienne est celle-ci. Donc, ça se passe donc au théâtre. Le théâtre, donc, le petit théâtre Ombrateke, c'est un drôle de nom.
À Dijon.
À Dijon, voilà. Le 28, 29 et 30 mars, à 20h30. Voilà, donc dans ce festival ItaliArt.
Et tu y liras, parce que tu n'as pas donné le nom de l'écrivain, des textes.
Oui, là, oui, c'est vrai que je vais lire là-bas, je vais dire des textes d'Eri De Luca. Donc un auteur qui est un auteur vivant, contemporain, un être formidable.
D'extrême gauche?
Non, un humaniste, mais qui a un parcours de vie avec lequel j'ai des points communs. Moi, je suis pas écrivain, je suis pas poète. Lui non plus n'est pas écrivain. Il fait le métier d'écrivain, dit-il. Voilà, et ça, il le souligne. Hein. Il fait le métier d'écrivain. Et j'ai trouvé ça fort. C'est quelqu'un qui n'est pas dans la prétention. Il n'est pas sur son piédestal en disant je suis un écrivain. Non. Il arrive à l'écriture comme on arriverait, je ne sais pas moi, à la littérature ou on arriverait à la peinture. Pour lui, c'est des choses qui coulent, qui sont venues comme ça par la nécessité de la vie et des choses.
Un site internet autour de cette manifestation donc, qui aura lieu les 28, 29 et 30 mars prochains à Dijon.
Voilà, il faut parler donc de ce petit spectacle, de cette lecture sous les arbres d'Eri De Luca que je vais faire le 28, 29 et 30 mars. Mais à partir du 1er mars, il y a un tas de manifestations, de concerts, et comme je vous le disais, de la danse, du théâtre, de la gastronomie sur ce festival. Voilà, donc le site est le www.ombradipiter.com. Donc Ombra, c'est Ombradipiter.com.
Merci Aldo. Et puis si vous souhaitez entrer en relation pour des raisons artistiques, professionnelles ou des projets, pourquoi pas à soumettre à Aldo Magno, vous pouvez contacter notre invité sur son portable au 06 80 41 14 46. Aldo, les 10 traditionnelles questions qui terminent notre émission. Quel est ton principal trait de caractère ?
Comme je suis gourmand et j'adore être toujours dans le superlatif, j'en ai mis deux. Alors, j'ai marqué hypersensible et épidermique.
La qualité que tu apprécies chez les autres.
Toujours pareil, hein. Je suis gourmand, donc j'en ai pris deux. L'altruisme et la considération.
Le défaut qui t'incommode chez quelqu'un.
L'égoïsme et la différence.
Sur une île déserte, qu'emporterais-tu?
Des livres, des feuilles et des crayons.
Une musique de ta vie?
Un opéra, comme ça c'est en plusieurs actes. Voilà, puis c'est haut dans la voix, c'est haut en couleur, avec des moments qui résument un peu la vie.
Une héroïne ou un héros d'enfance?
Je sais pas, je dirais Ivanhoe, je sais pas si les gens connaissent Ivanhoe.
Walter Scott.
Ouais.
Un choc cinématographique, un film marquant?
La Strada, ça m'a marqué.
Une lecture inoubliable?
L'écume des jours.
On revient à Boris Vian. Ta drogue favorite?
La vie.
Une femme ou un homme que tu admires?
Eri de Luca.
Merci Aldo d'avoir été aujourd'hui dans La Ville de Lyon. Rediffusion de cette émission samedi prochain à partir de 11h. Et je redonne ton numéro de téléphone portable pour celles et ceux qui souhaiteraient entrer en contact avec toi pour différentes raisons. Je rappelle, c'est le 06 80 41 14 46. Merci Aldo.
Merci Yannick, merci Radion et merci chers auditeurs, auditrices.
Au revoir à toutes et à tous, à la semaine prochaine.